Bonjour à tous et bonjour à toutes. Très heureux de vous retrouver dans un nouveau numéro de talk show. Aujourd'hui, on va parler d'un groupe très connu. Lucas va lancer la musique et on en parle tout de suite après. Vous avez bien sûr reconnu les Daft Punk, ça tombe bien, un livre vient de sortir aux éditions de l'Archipel sur les Daft Punk. Alors, c'est un abécédaire écrit par Michel Goujon, Camille Goujon et Vigo, et ça tombe bien avec nous. Camille Goujon, bonjour.
Bonjour Monsieur Chekroun.
Merci d'être avec nous. Ce livre, il est né de quoi ? Comment ?
Bah, il est né d'une volonté qu'on avait tous les trois. Donc on est tous les trois de grands fans de musique, de musique électro et des Daft Punk en particulier. Et c'est une idée qui a germé, on va dire après juillet 2017, mmh. et qui avec un travail qui s'est étalé ensuite sur deux grosses années, on va dire.
Alors, ce qui est assez intéressant, et quand on a le livre, on est intéressé, vous travaillez sur des incognitos. C'est pas un peu compliqué oui. comme travail ?
Mais c'est ce qui était, c'est ce qui était intéressant finalement. C'est vrai que l'anonymat des Daft Punk fait partie intégrante de leur personnalité, mmh. et puis de leur carrière d'artiste. Et c'est ce qui était intéressant. On trouvait qu'il y avait un manque au niveau de la littérature française et internationale ouais. par rapport à la fame du groupe. Ouais. Et c'est ce qui était justement très intéressant de pouvoir éclairer le lecteur.
Mais on trouve les infos, etc. C'est un vrai travail de journaliste d'investigation un peu, non ?
Oui, c'est vrai qu'il y avait un gros travail de documentation. Après, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire, quel que soit le type d'ouvrage. Mais pour nous, ça a été un vrai plaisir. Et après, c'est vrai que c'était assez particulier puisqu'on a travaillé à trois sur ce livre. Donc du coup, il y a eu un lourd travail pour uniformiser, avoir quelque chose qui était fluide pour le lecteur. Et effectivement, fallait recouper beaucoup d'informations. On a fait des interviews. Uh-huh. Après, c'est vrai qu'avec avec le net maintenant, entre autres, on a quand même accès à une base de données et d'informations qui est assez conséquente. Mais c'est très intéressant.
Camille Bougeron, pourquoi un abécédaire et pas un livre, disons, de façon classique, l'abécédaire, ABCD, etc. Pourquoi cette formule-là et pas l'histoire d'écrire un livre en un pack, on va dire ?
C'était plus facile ? Ça a été un choix qu'on n'a pas fait dès le début. Ah. En fait, ça s'est plus ou moins présenté naturellement à nous lors de nos séances de travail dans les tout premiers mois. Ce que je trouve intéressant avec le format ABCDR, c'est que contrairement à un type roman où on est obligé de reprendre à un point donné pour comprendre la suite, on peut lire uniquement une page ou deux, lire un item. Et c'est ce qui est pas mal, quoi. Ça permet de quand on a 5 minutes de lire une information uniquement une partie. On n'est pas obligé également de le faire dans l'ordre alphabétique. Donc c'est plus de flexibilité.
Exactement. Je trouve ça bon comme idée. Juste une question un peu annexe. Le livre est super bien travaillé au niveau de la maquette. C'est un livre tout noir avec la photo d'Afunk, avec une très belle écriture. C'était pour vous une exigence d'avoir un livre, on va dire, joli entre guillemets?
Tout à fait. Ben, on a voulu coller.
Esthétique en tout cas.
Excusez-moi.
Je disais un livre très esthétique.
Très merci. Ben, on a voulu rester un peu sur la thématique artistique des Daft. Bon, c'est fortement inspiré de leur dernier album Random Access Memory pour ça. Et après, on a voulu avoir un côté classe avec le jaspage côté noir,
super joli.
Faire quelque chose d'assez uniforme et rester dans le thème des robots, tout en faisant simple.
Michel Goujon, Camille Goujon, Yves Vigov, Daft Punk, Incognito aux éditions de l'Archipel. Alors, on va commencer par le début. Avec les deux Daffin, puisqu'ils sont deux, c'est Thomas Van Galter, je crois que je dis bien, et Guy Manuel de Homme Christo. Ce sont deux jeunes qui sont connus au lycée Carnot pendant leurs études. Est-ce qu'au départ, ils étaient aussi compatibles que ça?
C'est de leur propre aveu, c'est vraiment justement sur leur passion commune qui se sont rapprochés. Donc il y avait l'amour du rock, l'amour du cinéma, de la new wave, et c'est justement ça qui fait que avec Laurent Brockovich qui est désormais chez Phoenix, donc suite à la disparition du groupe initial Darlene qu'ils avaient fondé au lycée. Ils se sont tous les trois retrouvés là-dedans, dans cette passion commune qu'ils avaient et qui allait un petit peu à contre-courant de leur propre aveu de ce qui était entre guillemets à la mode en termes de goûts musicaux à l'époque pour les jeunes de leur âge.
Alors c'est intéressant dans votre livre et c'est très présent, c'est que finalement on a l'impression que les Daft Punk se sont construits par rapport à leurs idoles ou aux films qu'ils ont vus ensemble, aux musiques qu'ils ont écoutées. Comment ça s'est créé en fait Daft Punk en se disant on va faire de la musique électronique? C'était dès le départ, c'était l'idée de faire de la musique électronique?
Disons que c'est né dans un contexte et une période particulière également. C'est-à-dire que fin 93, il y a les débuts des Daft Punk, on va dire, suite à la critique un peu dure qui avait été faite par Melody Maker pour leur groupe Darlene. Et disons qu'ils étaient dans un contexte où la musique électro n'était pas encore acceptée de la société comme ça l'est à l'heure actuelle. C'était une démarche quasi révolutionnaire culturellement parlant. Donc disons que c'était, je pense pas que ce soit un choix initial puisqu'ils sont quand même plutôt issus de la veine rock, new wave, etc. Et surtout il y avait assez peu de références en musique électro puisque ça a commencé fin des années 80 à Chicago et Détroit et c'est arrivé en France on va dire par Laurent Garnier en toute fin des années 80 quand il est revenu de Manchester. Donc c'était un courant musical très neuf et de leur propre aveu, c'était pas forcément prévu. Ils ont découvert tout ça à Ibiza lors de vacances qu'ils ont faites et ils se sont dit voilà, c'est ce qu'il faut faire, c'est la musique de demain quoi finalement.
Alors
ce qui est intéressant,
allez-y.
Non, c'est ce qui est intéressant avec les Daft Punk, c'est que on pourra plus jamais avoir de nouveaux Daft Punk, puisqu'ils ont fait ça dans un contexte particulier il y a 25 ans. Et comment dirais-je, les nouveaux futurs Daft Punk éventuels, ce seraient des artistes qui créeraient quasiment ou qui participeraient au développement d'un nouveau courant musical. Il ne pourra pas y avoir de nouveaux Daft Punk sur la musique électro.
Alors, le succès est arrivé et tout de suite, les Daft Punk ont voulu rester, on va dire, dans l'incognito. Là aussi, c'est quelque chose de préparé, c'est un coup marketing ou c'est plus proche de leur univers, on va dire, musical et culturel.
Disons que y a eu une grosse influence également du père de Thomas par rapport à ça, Daniel Vanguard, qui était expérimenté puisque c'est un homme de l'ombre de la musique française des années 70. Il avait le label Zagora, entre autres. Il a produit la compagnie Créole, les Gibson Brothers, le groupe Otawan, et du coup il était rompu aux négociations du milieu, au fait de garder une liberté artistique totale, un contrôle absolu sur la musique et sur l'image. Et également, il était parfaitement au courant de ce que c'est que de vivre une vie d'artiste couronnée de succès, c'est-à-dire au niveau
C'est par rapport à Thomas, à son fils, qui voulait.
Tout à fait. Donc il y a eu un fort encadrement, beaucoup de conseils de la part du père de Thomas. Après, je pense que les Daft Punk ont toujours pris leurs propres décisions, même très jeunes. Et ça a été une décision qui a été réfléchie, qui a été définitive en 99 avec l'apparition des robots. Mais avant ça, ils étaient déjà dans une démarche un peu polymorphe où ils se déguisaient une fois avec un masque, une fois avec un collant sur le visage. Il y avait toujours, c'était pas encore arrêté au niveau du style. Ils avaient peut-être pas encore arrêté leur vision artistique globale, mais ils étaient déjà dans une démarche d'anonymat et de protection de leur vie privée. Par rapport à ça, par rapport à ça, il y a aussi ça rentre dans une certaine logique, c'est-à-dire que la musique électronique de base, il y avait pas les photos des artistes sur les couvertures de CD ou de vinyle. C'était très underground. On avait l'habitude que le DJ soit dos au public, ce qui se fait plus depuis un certain temps. Mais je veux dire, c'était un peu c'était pas de mettre la personne en avant, mais plutôt la musique.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est de connaître les Daft Punk, on va dire, au niveau de leur liberté artistique, en disant qu'ils font les albums quand ils veulent, c'est eux qui décident ce qu'ils mettent, c'est eux qui décident quand l'album sortira, etc. C'est eux qui décident. Il y a une très grande autonomie qu'on leur laisse. Pourquoi ?
Personne leur laisse cette autonomie, finalement. C'est eux qui veulent imposer leur tempo, et je pense que c'est tout à leur honneur. C'est justement une preuve d'intégrité par rapport à ce qu'ils ont envie de faire. Ils veulent faire de la musique de qualité et pas faire de la quantité ou du chiffre. Et c'est justement pour ça qu'ils ont pas voulu être sous le joug comme ça de grosses maisons de disques ou du système global de la musique.
Ils sont anti-système les deux. Ils sont anti-système tous les deux.
Oui, c'est un petit peu ça, mais ça, là encore, on en revient au côté un petit peu révolutionnaire qu'il y avait au niveau culturel dans ces années-là, c'est-à-dire au début des années 90. C'est vrai qu'il y avait eu à la fin des années 80 l'époque Margaret Thatcher en Angleterre, les interdictions des grands rassemblements, des grandes fêtes, et du coup, avec l'Eurostar également qui a joué un rôle, ce courant musical qui était naissant en Angleterre est arrivé en France, mais il y avait toujours un côté très underground, avec des raves parties un peu sauvages, qui se terminaient parfois par des gardes à vue. C'était eux-mêmes ont vécu cette période-là. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu anti-système en un sens.
Michel Gaujon, Camille Gaujon et Vigo Dafunk aux éditions L'Archipel. On va faire une deuxième pause musicale avec là un titre qui a été chanté par la Garde nationale. Ça a dû leur faire plaisir. Voici Get Lucky et après on trouve évidemment notre invité Camille Gaujon.
Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Camille Gaujon qui a écrit un livre avec Michel Gaujon, Yves Vigo, Dafunk, Incognito, extrait de Random Access Memory, c'était Get Lucky. Est-ce que c'est incongru de faire un duo entre Pharrell Williams et Dafunk?
Non, pas du tout. Disons que Pharrell Williams, ils avaient déjà travaillé avec lui au courant des années 2000. Et puis, c'est vrai que les Daft Punk ont toujours l'habitude d'inviter des chanteurs humains, on va dire.
Ouais. Contrairement à eux.
Sur différents albums. Parce que sur Discovery, on avait eu Roman Tony. Sur cet album-là, Random Access Memory, il y a également Julian Casablancas de The Strokes. Donc non, ça colle parfaitement avec le côté, on va dire, 70s, un petit peu les relents de ces années-là, ça matchait et du coup c'est pas particulièrement étonnant finalement.
Alors on a dit qu'il y a Thomas Bangalter et donc son collègue. Qui c'est qui fait quoi dans le groupe?
Alors, on en parle notamment dans la partie oui. Qui est intitulée « Comment ?».
C'est pour ça que je vous pose la question, c'est que c'est dans le livre.
Ouais. Disons que c'est un peu compliqué de répondre de manière binaire à ça, puisque comme tout duo, il y a quand même beaucoup d'interactions, chacun fait un peu de tout. Mais globalement, si on devait résumer la chose, c'est vrai que Thomas est plus celui qui va être sur les machines, et qui va lancer les hits, on va dire, ça va être la première vague, et Guy-Manuel va avoir plutôt tendance à être en retrait par rapport à ça et avoir une vue plus globale. Après, les deux pratiquent différents instruments et savent se servir des machines, évidemment. Mais disons que Thomas est plus dans l'instinct et Guy-Man dans le recul, dans le... dans l'analyse.
Alors, on a vu, on le sait, ils font très peu d'interviews, très peu de gens connaissent leur vrai visage. Dans l'avenir, il y a une évolution possible des Daft Punk, de les voir en vrai ou qu'ils enlèvent leur masque ou pas du tout.
Ouais, c'est possible. C'est vrai que ça pourrait être aussi un anonymat sous différentes formes. On y a pensé, à vrai dire, en travaillant le livre, on est confronté à différentes interrogations. Et c'est vrai qu'on s'était posé la question. Il pourrait très bien revenir, je ne sais pas moi, avec une barbe, des lunettes et des cheveux longs, un peu comme Sébastien Tellier, par exemple. Ouais. En un sens, c'est une manière de se cacher. Et puis quand on voit David Bowie, finalement il n'était pas déguisé en robot, en androïde, mais c'était une forme de déguisement, donc pourquoi pas. Après
dans l'évolution musicale, parce que là ils ont eu deux grands succès, de plus que deux d'ailleurs, mais des succès énormes, est-ce que y a une évolution qu'on peut envisager dans leur style de musique, ou on va rester dans le même style à votre avis?
À mon avis, ce qu'on peut espérer, c'est surtout être surpris, parce qu'avec les Daft Punk, on est toujours pris un peu à contre-pied de ce à quoi on peut s'attendre. Finalement, quand on analyse rétrospectivement leurs différents albums, il n'y en a aucun qui est identique ou peut être comparé à l'autre. Ils ont chacun leur propre couleur, entre guillemets. Donc,
quand on a des grands succès comme ils ont, c'est difficile de continuer, non?
Tout à fait, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'ils mettent du temps à revenir, puisque là, ça fera 8 ans en mai 2021. Ils veulent pas faire de la musique pour faire de la musique, mais ils veulent à chaque fois apporter quelque chose de plus à ce qui existe. Donc je pense qu'on sera surpris. Après, quelle tendance musicale, c'est dur à dire, puisqu'en général, c'est eux les précurseurs, finalement.
Michel Goujon, Camille Goujon, Yves Vigo, Daft Punk, aux éditions L'Archipel. On est sur Radio Judaïque à Strasbourg, et il y a, à la fin du livre, une histoire que vous racontez sur le père d'un des deux Daft Punk, qui s'est reconverti dans une action totalement nouvelle. C'est sur la récupération des œuvres musicales spoliées pendant la Shoah. Vous venez de nous dire un mot?
Tout à fait. Ça, c'est quelque chose. On était au courant déjà de ce combat qu'avait Daniel Vanguard contre la SACEM, mais on s'est beaucoup renseigné dans le cadre du livre, entre autres. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Donc, il a lancé un combat en 99 sur la spoliation de la propriété des artistes juifs pendant la Seconde Guerre mondiale par la SACEM, puisqu'il était tombé sur un document qui datait du 7 novembre 1941 de la SACEM, donc ce document, et qui décidait du blocage des revenus des artistes juifs et menaçait de les envoyer en camp de concentration. Et du coup, il y a eu une commission qui a été constituée pour travailler sur cette partie historique. Et effectivement, voilà, la SACEM a essayé de se défendre en se cachant, entre guillemets, derrière le gouvernement, le régime de Vichy de l'époque. Sauf que ça avait été un petit peu contrecarré, leur argument, par le fait que même le régime de Vichy n'avait pas imposé ces lois-là. Donc en fait, y a toute une procédure, mais c'est vrai que c'est très intéressant et y a beaucoup de documentation là-dessus. Donc ça a commencé fin 99 et c'est un peu le combat de sa vie.
D'accord.
Puisque Daniel Vanguard il était déjà en conflit de base avec la SACEM par rapport à son label Zagora.
Ouais.
Et c'est en travaillant pour son propre dossier qu'il a découvert, il est tombé sur ce document.
Alors, Camille Goujon, pour les gens qui nous écoutent et vous voudriez les pousser à acheter votre livre, c'est quoi votre argumentaire pour qu'on se rue dans les librairies?
Je pense qu'il y a... Il y a beaucoup de gens qui connaissent les Daft Punk, mais sans vraiment les connaître. Et il y avait très peu de choses là-dessus, finalement. En tant que fan, j'aurais aimé avoir un livre de ce type-là. Donc j'espère que ça plaira au plus grand nombre, évidemment. Il y a énormément d'anecdotes. On parle des Daft Punk, évidemment, mais plus globalement, on parle de leur environnement, de leurs influences, voilà, de leur monde global, artistique, visuel, cinématographique. Donc je pense que les gens vont apprendre beaucoup de choses dedans. J'espère, du moins.
Michel Goujon, Camille Goujon et Invigo Daft Punk Incognito aux éditions L'Archipel. Alors, comme vous l'avez dit, c'est un best-seller. Hein. S'il y a des choses que vous voulez sauter, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours retomber sur une anecdote qui vous intéressera ou sur une histoire qui vous intéressera. Merci beaucoup, Camille Goujon.
Merci à vous, Monsieur Chicot.
Et merci, on espère avoir peut-être le plaisir de vous retrouver pour pourquoi pas parler du futur album de Daft Punk.
Eh bien, ce serait avec plaisir.
Merci
avec
beaucoup.
Avec grand plaisir.
Bonne journée. Merci à Lucas pour la réalisation technique. Et on se retrouve la semaine prochaine.